France Inter.
Voici le 13-14, Céline Asselot.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Des flocons et des bouchons, la circulation est très difficile encore aujourd'hui. Dans une bonne partie du pays, 1600 km d'embouteillage ce matin selon Bison Futé, dont 600 km en Ile-de-France. Une centaine de vols annulés, on fera le point sur les perturbations avec nos équipes sur le terrain, avec nos invités. Aussi dont le ministre des Transports, Philippe Tabarot, qui sera avec nous dans quelques minutes. Et puis on attend vos appels, vos témoignages, racontez-nous si c'est la galère ou si vous avez réussi à vous organiser. 01 45 24 7000. On prendra aussi la direction de Saint-Tropez qui a rendu hommage à Brigitte Bardot ce matin. Cercueil en rotin et mimosa, la star avait souhaité des obsèques dans la simplicité. Une procession doit avoir lieu dans les rues de la ville. Direction aussi le Danemark, après les nouvelles déclarations de la Maison-Blanche. Bonjour Ajra Mohamed.
Bonjour Céline.
En direct de Copenhague, toutes les options, dont l'option militaire, envisagées pour prendre le contrôle du Groenland.
Oui, déclaration très va-t-en-guerre à la Maison-Blanche, alors qu'ici au Danemark, on tend la main aux Américains. Le gouvernement danois ouvre la voie à de nouveaux accords au Groenland, mais pas sûr que ça calme les ambitions de Donald Trump pour cette île tant convoitée.
Et on parlera de tout ça avec vous en détail tout à l'heure. La Maison-Blanche qui réclame aussi par ailleurs 50 millions de barils de pétrole au Venezuela. On verra qu'il s'agit d'alimenter les raffineries américaines. Les agriculteurs toujours mobilisés contre le Mercosur. On ira à Strasbourg où des dizaines de tracteurs se sont rassemblés.
J'ai pas envie que demain tout le pays français il vienne à des niveaux qu'on est là-bas. Nous on a une protection sociale, on a un standard de production ici en France. On n'est pas compétitif avec ces pays-là. Maintenant, si on veut mettre tout le monde à ce niveau de vie de là-bas, il faut nous le dire, quoi.
Un reportage à suivre, et puis un film allemand, une comédie rafraîchissante, et puis un western italien. Voilà ce qu'il y a au menu de la chronique cinéma d'Alexis Demeyer. Vous avez le programme, c'est parti pour le 13-14.
France Inter.
Il y a d'un côté la beauté des paysages qu'on n'a pas si souvent l'occasion de voir recouverts de neige. Et puis de l'autre, il y a les chiffres qui disent le bazar causé par les intempéries. 21 départements encore en vigilance orange. Jusqu'à 9 cm de neige ce matin dans les rues de Paris et des kilomètres de bouchons, 1600 ce matin dans le pays, selon les estimations de Bison Futé, dont 600 en Ile-de-France. La neige toujours moins poétique quand on la regarde depuis un embouteillage. Bonjour Sarah Mansourin.
Bonjour.
Alors qu'est-ce que ça donne sur les routes aujourd'hui ?
Des difficultés particulières sur l'A11 entre Paris et Angers ce matin, sur l'A81 près du Mans, sur l'A10 aussi près de Tours, de Niort. Il y a eu des tronçons fermés sur l'A8 en Provence et de mauvaises conditions, notamment sur l'A13 entre Paris et Rouen. En Normandie, justement, des auditeurs témoignaient ce matin sur l'antenne d'ici Normandie.
Je ne dépasse pas les 40 km/h, c'est vraiment très difficile.
Bah ça passe pas. J'essayais d'aller travailler, je crois que je vais faire demi-tour.
C'est extrêmement glissant et on ne fait plus la différence entre la voie de gauche et la voie de droite.
Il y a bien sûr aussi l'interdiction de circuler pour les poids lourds, surtout dans le nord et l'ouest, mais aussi entre autres les Ardennes ou Lyon. Dans les Hauts-de-France, par exemple, plus de 1800 camions stationnent dans des aires de stockage. Difficile d'estimer la reprise, puisque saler et déneiger restent compliqués, explique le président du département du Nord, Christian Poiret.
Quand on racle, on voit bien qu'avec le vent qui est à 60-70 km/h, on revient sur les chaussées, remettre de la neige. Donc ça va être incessant, surtout en milieu rural. Je veux dire, on voit bien qu'on peut avoir des congères avec 10-15 cm de neige.
Et la reprise pour les poids lourds, Céline, se fait au cas par cas depuis 10 heures, par exemple, en Seine-Maritime, mais pas avant 15 heures dans l'heure.
Et des perturbations aussi, Sarah, dans les transports en commun ?
Oui, une centaine de vols annulés ce matin à Roissy, une quarantaine à Orly. L'aéroport de Nantes, en revanche, vient de rouvrir avec une reprise progressive du trafic depuis une petite heure. Et des interruptions de circulation de trains, aussi toujours en cours dans le secteur de Saintes, en Charente-Maritime. Dans plusieurs villes, les régies de transport ont gardé ou fait rentrer tous les bus au dépôt, comme à Amiens, en région parisienne ou à La Rochelle. Et puis toujours très peu de transports scolaires aujourd'hui. Jusqu'en Haute-Corse, aucun car ne circule au-delà de 250 mètres d'altitude.
Merci Sarah Mansoura pour ce tour d'horizon. Et le ministre en charge des Transports est notre invité. Bonjour Philippe Tabarot.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous dans le 13-14 de France Inter. Beaucoup d'embouteillages, on vient de l'entendre. Beaucoup d'automobilistes en difficulté. Est-ce que les appels à ne pas prendre la route n'ont pas été suffisamment entendus ?
Ils ont été partiellement entendus, puisque je rappelle que ne serait-ce qu'en Ile-de-France, c'est 14 millions de trajets quotidiennement et on voit que certains ont pu s'organiser autrement. Et je sais que ceux qui ont été obligés d'aller sur la route, ce n'est pas par plaisir, mais parce qu'ils ne pouvaient probablement pas télétravailler. Donc c'est vrai que la situation est difficile, mais elle est conforme aux annonces d'hier, avec une situation encore plus dégradé que lundi, comme nous l'avions annoncé. Certains ont pu réduire leurs déplacements au maximum dans la mesure du possible, mais d'autres ont été amenés à se déplacer, que ce soit avec leur véhicule individuel ou avec les transports en commun qui ont fonctionné, pas pour tous et pas partout, mais globalement.
Vous aviez critiqué Météo France lors du premier épisode neigeux en début de semaine. Qu'en est-il aujourd'hui ? Est-ce que là, les prévisions étaient plus conformes, selon vous ? Est-ce que vous avez pu prendre les mesures adéquates ?
Je n'ai pas critiqué Météo France, j'ai simplement dit que sur le lundi, il avait été annoncé 1 à 3 cm de neige sur Paris, ça avait été 8 cm, donc il avait fallu s'adapter au fur et à mesure de la journée par rapport à ce qui n'est pas une science exacte, malgré toutes les qualités, toutes les compétences de Météo France. Là, oui, on semble être dans ce qui a été prévu, à la fois progressivement des départements qui ne seraient plus en vigilance orange et qui passeraient en vigilance jaune, mais en tout cas avec une particulière attention vis-à-vis des pluies verglaçantes, vis-à-vis du verglas qui est toujours là sous les couches de neige.
Et des remontées qui vous sont faites, Philippe Tabarot, quels sont les points les plus difficiles à l'heure où on se parle ?
Écoutez, le point qu'a fait votre journaliste est un point qui est très précis et très clair. La principale difficulté en Île-de-France, ça a été la fermeture de la nationale 118. On s'est posé la question, on n'a pas souhaité le faire immédiatement ce matin pour voir comment les choses évoluaient. Il a fallu prendre cette décision, s'adapter à cette situation. Ça a été le cas dans les aéroports aussi, et notamment à l'aéroport d'Orly, où il y a eu plus de difficultés que prévu. Pour le reste, la 8 également, ce matin, a été fermée entre les Bouches-du-Rhône et le Var. Elle va réouvrir à partir de 15h, comme dans le secteur de l'aérien, l'aéroport de Nantes, vous l'avez dit. Et concernant les tramways, tous ont plutôt bien fonctionné, à part la T6 et la T8. Et également, les Transiliens ont plutôt bien fonctionné en dehors de la ligne entre Paris et Rambouillet.
Et le risque maintenant, c'est le retour des bureaux en fin de journée. Il y a une attention, une vigilance particulière.
Tout à fait. C'est ma préoccupation principale. Je me rendrai au centre de Créteil tout à l'heure pour vérifier ça sur le terrain. Je souhaite, comme ça a été le cas lundi, que même si c'est avec un temps de trajet beaucoup plus important que d'habitude, que tout le monde puisse rentrer à son domicile, et je ne veux pas voir les scènes de 2024 ou de 2018 avec des personnes qui sont obligées de dormir dans leur véhicule. Ça, c'est quelque chose qui est notre hantise, et tous les agents des routes, les collaborateurs sont particulièrement mobilisés pour que ce qui s'est passé par le passé ne se reproduise plus, et j'espère qu'on aura pu tirer les enseignements de ces épisodes qui ont été particulièrement difficiles à vivre. Avoir du retard, rester dans des ralentissements, c'est une chose, ne pas pouvoir dormir à son domicile parce que bloqué dans sa voiture, c'est autre chose, et on veut tout faire pour éviter ça.
Merci beaucoup Philippe Tabarot d'être intervenu en direct dans le 13-14. Vous êtes le ministre en charge des transports, et puis il y a un autre secteur qui lui aussi est impacté par cet épisode neigeux, c'est le commerce, puisque les soldes d'hiver débutent aujourd'hui. C'est le moment idéal, bien sûr, pour s'équiper, si on ne l'a pas encore fait, en gants, en bonnets, en après-ski. Mais encore faut-il pouvoir atteindre les boutiques, et les clients sont parfois découragés. Reportage à Paris de Lou Bourdi.
Pour entrer dans ce magasin de vêtements, il faut d'abord ne pas glisser en marchant sur la neige juste devant.
Bonjour madame.
Mais pour ces vendeuses, la neige, justement, c'est bon pour les soldes.
Oui, on va écouler les stocks et de donc, pulls et de manteaux, quoi.
Les grands manteaux en laine avec 100% laine vierge et tout.
Selon elle, la neige et le froid ne vont pas décourager les clients.
C'est pas souvent qu'il neige à Paris, donc quand il neige, les gens vont sortir un peu plus.
Vraiment, les gens, ils adorent venir essayer. C'est un peu comme venir dans son vestiaire personnel. Et...
Oui, c'est ça. Il y a du monde qui vient se chauffer, en fait, dans le magasin. Donc
on vient se réchauffer chez vous, quoi.
Oui, c'est ça.
Juste à côté, dans ce magasin. En revanche,
c'est du mouton, c'est vraiment ce qu'il y a.
Quand on demande au gérant s'il est prêt pour les soldes, la réponse est hésitante.
Après, oui, après le temps là, je sais pas ce que ça va faire du coup avec les intempéries.
La neige lui fait peur.
En France, 1 cm de neige et tout est bloqué, donc c'est un peu compliqué. Il y a déjà des collaborateurs qui n'ont pas pu venir travailler. Puis je pense que c'est de même avec les clients.
Les clients, justement.
Non, pas vraiment.
La neige ne donne pas envie. envie à cette Parisienne de faire les soldes.
Vous êtes mis au chaud.
Voilà, tout à fait.
Difficile à entendre pour les commerçants alors que le mois de décembre enregistre déjà une baisse des ventes, moins 4,5% par rapport à l'an dernier, selon l'Alliance du commerce.
Reportage de Lou Bourdi dans les rues parisiennes et on reviendra sur la situation, sur les perturbations liées aux intempéries. Tout à l'heure à 13h30, on sera dans l'Oise, dans le nord de la France, en Haute-Vienne et puis un peu partout dans le pays, on l'espère, avec vos témoignages et vos questions 01 45 24 7000. Et c'est cette ambiance de très froide journée de janvier que Saint-Tropez a dit adieu à sa star. Bonjour Mathilde Vinceneux.
Bonjour.
La cérémonie s'est déroulée en fin de matinée.
Oui, et sur le vieux port de Saint-Tropez, plusieurs centaines de personnes ont regardé la messe sur écran géant. Puis ils ont applaudi le convoi funéraire qui a quitté l'église il y a quelques minutes. Le cercueil de Brigitte Bardot recouvert de fleurs oranges. Dans la foule, Laurine, elle est émue. Elle a traversé la France avec ses deux chihuahuas pour dire adieu à Brigitte Bardot.
Au décès de Brigitte, moi j'ai beaucoup pleuré déjà. Et puis je me suis dit qu'il fallait que je sois là. Et j'ai fait 1000 bornes pour venir lui rendre l'hommage éternel qu'elle mérite, quoi. Voilà. Au-delà de sa beauté légendaire, elle était quand même la plus belle femme du monde. Mais bien entendu que son combat pour les animaux est plus qu'incroyable.
Et puis sur le port, près des yachts, il y a aussi des habitants de Saint-Tropez venus rendre hommage à celle qui a rendu leur village célèbre, comme l'explique Nathalie.
Ça nous fait quelque chose parce que forcément elle fait partie de nous, Brigitte Bardot, vu qu'elle représente quand même Saint-Tropez. Voilà. Après, on s'attendait à avoir beaucoup plus de monde, il n'y a pas grand monde, mais c'est bien parce que je pense que c'est ce qu'elle voulait, elle voulait être dans l'intimité, elle voulait quelque chose de simple et je pense que ça lui correspond bien, quoi.
Une cérémonie simple avec quelques personnalités invitées, la chanteuse Mireille Mathieu ou encore Marine Le Pen, la députée RN qui a salué une femme, je cite, « libre et engagée ». Brigitte Bardot va maintenant être inhumée au cimetière marin de Saint-Tropez face à la mer.
Merci Mathilde Vinceneux en direct de Saint-Tropez pour France Inter.
France Inter, le 13-14. Céline Asselot.
Utiliser l'armée américaine est toujours une option à la disposition du président. Voilà quelques mots qui viennent attiser encore un peu plus l'inquiétude des Européens. Ils sont signés de la porte-parole de la Maison-Blanche dans un communiqué où Donald Trump réitère ses ambitions concernant le Groenland. L'option militaire, donc, désormais clairement évoquée, même si elle n'aurait aucun sens, relativisée tout à l'heure sur France Inter, le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot. Toujours est-il qu'au Danemark, évidemment, on prend ces déclarations américaines très au sérieux. Ajra Mohamed, on vous retrouve à Copenhague. Les Danois d'autant plus surpris qu'ils avaient tenté ces derniers jours de se montrer conciliants avec les États-Unis.
Oui, si la première ministre danoise répète depuis plusieurs jours fermement que le Groenland n'est pas à céder, Mette Frederiksen tend aussi la main et propose de nouvelles coopérations aux États-Unis sur cette île de l'océan Arctique. Le gouvernement danois rappelle d'ailleurs que de nombreux accords existent déjà avec Washington depuis la fin des années 1950, sur la défense évidemment, avec par exemple l'immense base militaire américaine de Pituffik installée sur place, des accords commerciaux aussi. Concrètement, aujourd'hui, si une entreprise américaine veut s'implanter au Groenland pour procéder par exemple à des forages, extraire des minerais, elle aura un feu vert des autorités danoises. Et enfin, il y a aussi des échanges culturels. En réalité, les Américains peuvent déjà faire ce qu'ils veulent sur place, résumait un expert. Donc, que veulent-ils de plus? C'est la question que se posent les Danois. S'il s'agit de mettre la main sur cette île pour en avoir le contrôle total et exclusif, ce sera toujours non, a rappelé hier la première ministre du Danemark et son homologue au Groenland.
Merci Ajra Mohamed en direct de Copenhague où vous êtes l'envoyé spécial de France Inter. Et le paradoxe géopolitique de tout cela, eh bien c'est que pendant que la Maison-Blanche menace verbalement l'intégrité territoriale de l'Union européenne, eh bien les Américains, les Européens discutent ensemble de l'Ukraine à Paris. Une réunion de la coalition des volontaires s'est tenue hier à l'Élysée et elle a permis d'avancer sur la question des garanties de sécurité. Bonjour Éric Biégalin.
Bonjour.
Les pays alliés de Kiev se disent prêts à déployer une force multinationale en Ukraine après un éventuel cessez-le-feu.
Oui, ces garanties de sécurité possibles pour l'Ukraine ont été quelque peu précisées à l'occasion de la réunion à Paris de la coalition des volontaires, réunion à laquelle participaient en personne les Américains, et ça, c'est une première. Concrètement, ces garanties prévoiraient le déploiement en Ukraine d'une force dite de réassurance européenne, essentiellement franco-britannique d'ailleurs. Emmanuel Macron a mentionné, s'agissant du contingent français, plusieurs milliers d'hommes. Les diverses évaluations de la dimension optimale de cette force, laquelle devrait être crédible face à l'armée russe, s'étage de 15 à 30 000 hommes. au sol, mais aussi dans les airs, une sorte de police du ciel, ainsi qu'en mer Noire, où la marine turque serait là déployée. Surtout, les Américains participeraient à cette force de réassurance. Jared Kushner, le gendre de Donald Trump, présent lors de la réunion de Paris hier, a mentionné l'engagement à garantir un backstop, c'est-à-dire un filet de sécurité militaire américain pour les troupes déployées en Ukraine. Il n'en a pas précisé le détail, mais ce filet de sécurité avait été évoqué notamment par le Premier ministre britannique Keir Starmer. Il serait constitué par le déploiement en second rideau de l'armée de l'air américaine, laquelle s'engagerait à soutenir les Européens déployés en Ukraine s'ils étaient attaqués. L'US Air Force dispose en Europe de 7 escadrons de chasse, en Grande-Bretagne, en Allemagne et en Italie. En tout, plus de 200 aéronefs militaires basés en Europe. C'est l'équivalent en volume, hein, en volume de force de la totalité de l'armée de l'air française.
Merci Eric Biegala pour toutes ces précisions. Et de nouveaux échanges doivent avoir lieu aujourd'hui, toujours à Paris, entre les représentants ukrainiens et les représentants américains. Quant au Venezuela, il doit se préparer à fournir les États-Unis en pétrole, annonce cette nuit de Donald Trump. On savait que les questions énergétiques étaient au cœur de l'intervention américaine contre Nicolas Maduro. Le président américain le confirme donc sans embâge. Les autorités vénézuéliennes par intérim vont nous remettre, dit-il, entre 30 et 50 millions de barils. On va tenter de comprendre comment ça peut se passer concrètement avec vous. Étienne Monin, bonjour.
Bonjour.
Quel est finalement tout d'abord l'intérêt des États-Unis?
Alors, pour trouver des éléments de réponse, il faut s'intéresser aux raffineries américaines du Golfe du Mexique. Elles sont de gigantesques installations. Elles font travailler plus de 60 000 personnes. Elles sont implantées dans des États qui sont traditionnellement républicains. Beaucoup de ces raffineries ont été construites à partir des années 90. Des dizaines de milliards de dollars ont été investi. Elle transforme le pétrole brut lourd et c'est une tâche spécifique. La matière est dense, visqueuse, polluée. Elle ressemble presque à du goudron. C'est ce qu'on trouve dans le sous-sol vénézuélien. Aujourd'hui, les industriels doivent importer une partie de cette matière première. Elle vient du Canada, du Mexique, à la fois parce qu'aux États-Unis, l'exploitation du pétrole de schiste a explosé et parce que le robinet du brut vénézuélien s'est tari avec les nationalisations d'Hugo Chavez. C'est donc un retour aux sources pour l'administration Trump. 50 millions de barils, ça représente l'équivalent d'environ 2 mois d'extraction. C'est un gain financier et politique à court terme, mais c'est aussi un message pour la Chine, premier client du Venezuela. Mène quand même une opération qui ne signifie pas un jackpot. Le Venezuela possède la première réserve pétrolière au monde et pour mettre la main dessus, l'investissement américain risquerait d'être colossal cette fois et à haut risque.
Étienne Monin, merci de la rédaction internationale. Une dernière réunion pour tenter de lever les dernières réticences. Les ministres européens de l'agriculture sont attendus cet après-midi à Bruxelles pour discuter de l'accord du Mercosur. La Commission européenne veut signer cet accord de libre-échange au plus vite. Sa présidente propose donc une rallonge budgétaire dans la future politique agricole commune, ce qui semble convenir à l'Italie. La France pourrait donc se retrouver bien seule dans le camp des contestataires. Mais le combat va continuer, assurait ce matin la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, interrogée sur France Info. Il faut dire que les agriculteurs français continuent de faire pression sur le gouvernement. Des cortèges de tracteurs ont pris la route en direction de Paris à l'appel de la coordination rurale et malgré l'interdiction, des gendarmes ont d'ailleurs tenté d'intercepter des tracteurs ce matin dans les Yvelines. Mais les véhicules ont forcé le passage. Plusieurs syndicats ont appelé par ailleurs leurs adhérents à rejoindre Toulouse. La circulation fortement perturbée aux abords de la ville. Et puis à Strasbourg, les agriculteurs mécontents étaient appelés à se réunir ce midi. Une centaine de tracteurs rassemblés au cœur de la ville pour sensibiliser les consommateurs aux conséquences de ce traité, explique Gérard Lorbé, c'est le président de la FNSEA du Bas-Rhin.
Le politique qui veut faire passer la pilule du Mercosur, il dit, mais d'une, on va exporter des choses, des services, et puis de la bagnole, et puis tout ce que tu veux. Alors de la bagnole, nous, on n'en a pas trop. Ça va être nos copains allemands qui vont les vendre. Et puis des services, j'en sais trop rien. Et puis d'un autre côté, ça va augmenter le pouvoir d'achat. Alors, moi, j'aime bien le pouvoir d'achat. Mais qu'est-ce que ça veut dire, pouvoir d'achat? Ça veut dire que les choses sont moins chères, et la nourriture, aujourd'hui, elle a un prix. Dans le standard de production française, la nourriture a un prix pour une rémunération pour nos agriculteurs. Alors, on peut acheter moins cher, on peut détruire ce qui existe ici, mais au final, le consommateur, il faut aussi qu'il sache ce qu'il veut. Là-bas, le salarié agricole dans ces pays-là, il est payé à un tiers du prix de ce qu'on paye ici. Je n'ai pas envie que demain, tout le pays français, il vienne à des niveaux qu'on est là-bas. Nous, on a une protection sociale, on a un standard de production ici, en France. On n'est pas compétitif avec ces pays-là, mais on n'a pas le même niveau de vie. Maintenant, si on veut mettre tout le monde à ce niveau de vie de là-bas, il faut le dire, quoi.
Gérard Lorbet de la FDSEA du Bas-Rhin au micro de Magali Fichter d'ici Alsace. Et pendant que les agriculteurs manifestent donc contre le Mercosur et contre la gestion de la crise de la dermatose, le Salon de l'agriculture lui annonce qu'il n'y aura pas de concours bovin cette année, porte de Versailles. Par peur de la contagion, les organisateurs disent espérer une présence limitée, symbolique des bovins au salon qui ouvre ses portes le mois prochain. C'est un groupe bicentenaire, l'un des grands noms des arbres de la table en France. L'entreprise Arc France, qui fabrique des verres, annonce avoir demandé son placement en redressement judiciaire. Le groupe emploie 3900 salariés dans son usine du Pas-de-Calais, malgré des plans de refinancement soutenus par l'État. Il fait face, dit-il, à une dégradation sévère et continue de son environnement de marché. Le débat sur la fin de vie reprend aujourd'hui au Parlement, longtemps mis en parenthèse en raison de l'instabilité politique. Les textes sur l'aide à mourir et les soins palliatifs sont examinés en commission au Sénat. Emmanuel Macron avait promis une loi avant la fin de son mandat. Et puis les sénateurs vont examiner aussi cet après-midi une proposition de loi issue du Parti Socialiste pour changer le statut des AESH, ces professionnels qui accompagnent les élèves handicapés à l'école. Ils sont 140 000, c'est le deuxième corps de métier dans l'éducation nationale derrière les enseignants, mais leur profession est encore peu reconnue, leur statut d'agent contractuel est encore très précaire, d'où ce texte qui propose de les intégrer à la fonction publique d'État, Alice Cachaner.
Aujourd'hui, les AESH sont employés par les rectorats. Avec cette proposition de loi, ces accompagnants d'élèves handicapés deviendraient fonctionnaires de catégorie B, explique Marie-Pierre Monnier, sénatrice socialiste.
Faire ce statut, ça va les fidéliser. Ça va aussi professionnaliser le métier, puisqu'il faudra un concours pour pouvoir être AESH, un concours de la fonction publique. Ça va rendre la profession beaucoup plus attractive.
À l'heure de l'école inclusive, l'enjeu est de taille. En septembre dernier, près de 50 000 élèves handicapés étaient sans AESH. Malgré de récentes évolutions, le métier reste précaire. Beaucoup d'accompagnants gagnent moins de 1 000 euros par mois. Des temps partiels subis. Certains sont contraints de cumuler les petits boulots, explique Marie-Chancelle Lherminier, déléguée régionale de l'association AESH en Lumière.
En fin de journée, quand on a fini à 17h, et j'ai des collègues qui repartent faire les ménages ou des sorties d'école pour d'autres enfants, mais vraiment des petits boulots qui permettent juste de pouvoir tenir.
Un statut de fonctionnaire permettrait également de renforcer la formation, la qualification des AESH. Pour autant, à droite, la proposition suscite des réserves. Le coût de la mesure est estimé à 4 milliards d'euros.
Alice Cachaner, ce sont les petites mains du trafic de drogue et elles en payent parfois le prix fort. De nouvelles affaires impliquant des mineurs ont eu lieu à Nantes et à Alès. Bonjour Emmanuel Leclerc.
Bonjour.
Intéressons-nous d'abord au cas de cet adolescent de 15 ans blessé par balle dans le Gard.
Oui, selon nos informations, ce sont deux scooters qui sont arrivés à hauteur de 4 adolescents avant d'ouvrir le feu. Une balle est venue se loger dans le mollet d'un mineur originaire de Sainte-Saint-Denis qui est allé se réfugier dans la cantine scolaire de l'école primaire voisine. Des impacts de plusieurs balles ont été repérés sur la rampe menant à cette cantine, ce qui signifie que les 4 adolescents ont échappé de peu à la mort. Tout cela donc près d'un point de deal, jouxtant l'école de ce quartier d'Alès des Prés-Saint-Jean. Deux dealers présumés qui se trouvaient à proximité sont en garde à vue et les tireurs en scooter toujours en fuite. Ce qui est également impressionnant dans cette histoire, c'est que les 4 ados étaient arrivés le matin même à Alès, envoyés, recrutés par qui on ne sait pas, des jobbers comme on les appelle, en tout cas repérés aussitôt avec l'envoi immédiat d'une équipe de shooters, de tueurs à gages.
Et puis quelques heures plus tard, Emmanuel, c'est à Nantes que l'on a eu une autre illustration de cette problématique.
Alors là, ce sont deux adolescents, 14 et 16 ans, qui ont cru mourir, enterrés vivants dans un trou qu'on leur avait demandé de creuser dans la forêt. C'est ce qu'ils ont raconté, en tout cas aux gendarmes qui sont venus les chercher, après un appel d'un habitant de la Chapelle-sur-Erdre, tout près de Nantes, qui les avait recueillis, transis de froid, ensanglantés. L'un d'eux, là encore, est blessé à la jambe, un coup de couteau dans la cuisse cette fois. Le visage boursouflé, des bouts de doigts abîmés, comme l'ont raconté nos confrères de Ouest-France. Les deux ados sont originaires d'Angers. Ils ont du bout des lèvres raconté la mise en scène macabre, mais rien de plus. Une omerta qui est aussi l'une des marques du narco-banditisme qui pèse sur les jeunes employés, même quand ils deviennent victimes d'actes de torture.
Emmanuel Leclerc, service police-justice de France Inter. L'ancien maire de Saint-Étienne en prison, Gaël Perdriau, a lui-même annoncé ce matin sur les réseaux sociaux son incarcération après sa condamnation à 4 ans de prison ferme dans l'affaire du chantage à la vidéo intime contre son premier adjoint. Cette décision, je la vis comme une terrible injustice, dit dit-il, lui qui a fait appel de son jugement. Tout de suite, le cinéma. Car on est mercredi, c'est donc le jour des sorties. Bonjour Alexis de Meyer.
Bonjour Céline.
Et on commence avec un film allemand intitulé « Les échos du passé ».
Oui, un film présenté en compétition à Cannes en mai dernier et récompensé du prix du jury. Ce deuxième long métrage de la prometteuse cinéaste Masha Chilinsky retrace les parcours de plusieurs générations de femmes qui, à différentes époques, habitent dans la même ferme isolée de l'Altmark, une région rurale du nord de l'Allemagne.
Mutti weiß Sachen, an die sie sich eigentlich gar nicht erinnern dürfte.
La mémoire d'un lieu et les drames féminins qui s'y sont déroulés, voilà la promesse de cet émouvant film de 2h30. Parfois âpre, parfois trop démonstratif sur les violences endurées par ses héroïnes, Les échos du passé n'en demeure pas moins une œuvre passionnante, filmée de manière très inspirée.
Alors vous nous recommandez aussi, Alexis, la comédie Ma frère avec Amel Bent.
Oui, vivifiant film de colonie de vacances, genre cinématographique à part entière, que celui co-réalisé par les jeunes Lisa Coca et Romane Guéret. Elles adaptent ici leur web-série « Tu préfères » en ligne sur la plateforme d'Arte. « Ma frère » nous entraîne dans la Drôme avec des ados et des monos franciliens à la langue bien pendue.
Je leur raconte des histoires, je leur fais rire et j'ai le permis, ça c'est le principal. Les métros, les escalators, flemme, Tom, tu sais Sabrina.
La grammaire aussi un peu, flemme.
Voilà, flemme. C'est la voix d'Amel Bent qu'on entend à la fin de cet extrait. La chanteuse livre une prestation très convaincante en interprétant Sabrina, la bienveillante directrice de cette colo totalement en phase avec les années 2020. Les deux comédiennes principales, les jeunes Fanta Kébé et Shirelle Nataf, ont d'ailleurs mis beaucoup de leur propre histoire et de leurs expressions préférées dans ce film enthousiaste. Même s'il souffre, comme la plupart des comédies, d'un petit coup de mou dans sa dernière demi-heure.
Alors un western italien aussi dans les salles. À partir d'aujourd'hui, ça s'appelle Pile ou Face.
Dove mi porti, cowboy?
Dove vuole io la porto?
In America.
L'America è lontana.
Le légendaire Buffalo Bill est de passage en Italie pour présenter son Wild West Show. Santino, un fermier italien, parvient à gagner un concours de lasso face aux cow-boys américains de la troupe de Buffalo Bill. Cette victoire imprévue, crime de lèse-majesté, l'oblige à s'enfuir en compagnie de Rosa, interprétée par la française Nadia Tereskiewicz. Pile ou Face est un néo-western spaghetti aussi politique qu'humoristique, qui part peut-être un peu trop dans tous les sens, mais dont l'énergie et la singularité sont salutaires dans un paysage cinématographique italien actuellement désertique.
Alors en bref, quoi d'autre à l'affiche cette semaine, Alexis ?
Les Lumières de New York sur une famille de migrants chinois dans la précarité. Father, Mother, Sister, Brother, la nouvelle comédie dramatique de Jim Jarmusch, Lion d'or à Venise. Et Tout va bien, un documentaire de Thomas Ellis sur des mineurs isolés à Marseille.
Non, c'est quoi à voir pour se réchauffer. Merci Alexis de Meyer, spécialiste cinéma à la rédaction de France Inter. Et puis le Louvre a entièrement rouvert ses portes aujourd'hui. Les agents du musée réunis en Assemblée Générale ont décidé de ne pas reconduire le mouvement de grève destiné à protester contre leurs conditions de travail. Le mouvement est suspendu, mais pas arrêté, précisent toutefois les syndicats. 13h28, restez avec nous sur France Inter. Dans la prochaine demi-heure, on fera le point sur les conditions météo, sur la neige qui est tombée en abondance. Vous le savez, sur une grande partie de la France ce matin, les prévisions, ce sera avec Sophie Briat. Et puis on s'interrogera sur le dispositif mis en place. Les mesures ont-elles été suffisantes? Ont-elles été respectées? On ira dans l'Oise, dans le Nord avec nos reporters. On sera en direct de Haute-Vienne aussi pour faire le point avec le préfet. Et puis Arnaud Aimé, spécialiste des transports, sera avec nous également. J'attends vos questions, vos témoignages. 01 45 24 7000. Notre feuilleton à suivre également dans ce village du Doubs où l'on est maire de père en fils. Depuis plus de 2 siècles, on ne doit pas être loin du record de France. Dans l'épisode du jour, on part visiter la commune avec le maire actuel. 13h50, c'est la France. Et le mercredi, c'est avec vous. Bonjour Eric Fotorino.
Bonjour Céline.
Du 1 Hebdo. Et vous aussi, Eric, c'est la neige qui vous inspire.
Oui, alors ce n'est pas une chronique météo. C'est surtout la blancheur de la neige qui stimule nos imaginaires à laquelle j'ai voulu m'attacher à mesure que cette neige s'étend et tend son grand manteau dans l'ensemble du pays.
Car oui, ça peut être aussi poétique, on l'oublie trop souvent de le dire. Bonjour à vous Frédéric Pommier.
Bonjour Céline.
Qui est à votre micro aujourd'hui.
Un saxophoniste de jazz, il s'appelle Benjamin Petit. Et il sera en concert samedi au Duc des Lombards à Paris. Et avec lui, nous écouterons la voix de Sting. Englishman in New York, on aime bien Sting.
Mais on
aime beaucoup Sting.
Oui, il faut le dire. Merci à tous les deux, à tout à l'heure.
Les Belles Promesses, c'est le roman événement de Pierre Lemaître.
Des travaux titanesques dans tout Paris. Un bébé réchappé d'un incendie, le cœur d'un homme écartelé, un monde rural menacé, des femmes sorties de l'oubli et un effroyable dilemme moral. Au bout du chemin, pour la famille Pelletier, ce sera l'effondrement ou l'apothéose. Par bonheur, le chat Joseph veille encore. Les belles promesses, un roman déchirant et enthousiasmant de Pierre Lemaître aux éditions Calman Lévy.
Média en scène, le jeudi 15 janvier à la Maison de la Radio et de la Musique à Paris et en streaming sur mediaenscène.com. Intelligence artificielle, désinformation, écologie, nouveaux modèles économiques. Comment les médias se réinventent dans un monde en pleine mutation. Média en scène, le Festival international des médias de demain, jeudi 15 janvier, un événement Les Échos, Le Parisien et France Info. Inscription gratuite sur mediaenscène.com.
Avec AXA, Engie, BNP Paribas, Webedia et Ipsos BVA.
France Inter, partenaire du film Les Échos du passé de Masha Chilinsky, prix du jury au Festival de Cannes. Quatre vies, quatre époques différentes. Alma, Erika, Angelika et Lenka passent leur adolescence dans la même ferme au nord de l'Allemagne. Au fil du siècle, la maison se transforme, mais les échos du passé résonnent, et malgré les années qui les séparent, leur vie semble se répondre. Les Échos du passé, actuellement au cinéma, un film France Inter.
13h30, la météo.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes et collants. Cachemire, fil d'Écosse, soie, coton ou laine. Bleu Forêt, un luxe français.
Bonjour Sophie Briard.
Bonjour Céline, bonjour à tous.
Il reste donc encore 21 départements en vigilance orange. Hein.
Neige et verglas. En cette mi-journée, la perturbation donne encore des chutes de neige. Elle se décale puisque ce matin, elle était sur l'ouest, l'Île-de-France. Maintenant, elle est sur les Hauts-de-France, la Champagne-Ardenne jusqu'à la Seine-et-Marne, le Centre-Val-de-Loire, le Massif central et l'Ouest-Bourgogne jusqu'au Limousin. Pour la neige, les cumuls attendus dans les départements en vigilance orange atteignent souvent 3 à 7 cm, voire 10 à 15 cm localement, surtout dans le Massif central. À Paris, par exemple, est tombé ce matin 10 cm de neige qui ont été relevés par Météo France au parc Montsouris. Cet après-midi et en soirée, l'épisode neigeux se décale, s'installant du Grand Est à la Bourgogne-Franche-Comté, le Limousin, l'Auvergne-Rhône-Alpes et l'extrême nord de l'Occitanie, mais en perdant de son activité et donnant généralement entre 1 à 5 cm de neige à l'ouest de la Bretagne jusqu'à l'ouest des Pyrénées. Les nuages s'imposent et donnent un peu de pluie, de la neige à partir de 800 à 1000 mètres sur le relief pyrénéen et le soleil se trouve juste sur la Côte d'Azur.
Et les températures, Sophie, elles sont toujours en dessous des normales. Hein.
Oui, il fait de moins 3 à 9 degrés sur la moitié nord, 9 à Brest, 4 à Arras, 3 à Paris, moins 2 à Mulhouse et de 2 à 11 sur le reste du pays, moins 2 à Aurillac, 0 à Lyon, 4 à Toulouse, 5 à Marseille et 11 degrés, ça sera à Nice.
Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Sophie Briard. Bon courage à tous.
France Inter, le 13-14.
Comment éviter la pagaille, justement, quand la neige s'invite sur une grande partie du pays? Question qui se pose depuis le début de la semaine. 21 départements, encore, on le disait, en vigilance orange. En cette mi-journée, beaucoup de perturbations, notamment sur les routes. Et on va en avoir une illustration tout de suite avec vous. Bonjour Béatrice Duguay.
Bonjour.
Vous êtes partie ce matin de Beauvais, dans l'Oise, pour rejoindre Paris, via l'A86. Alors comment ça se passe? Est-ce que ça circule?
Alors ça circule mieux, on va dire. Et puis je vais vous dire une chose, c'est beau. Plaisir enfantin, hein, quand même, à voir la
mais
nature,
oui,
les arbres givrés, enneigés. Voilà, faut pas bouser son plaisir. Alors nous avons quitté effectivement Beauvais un peu après 9h, dans les bourrasques de neige. Une voie à peu près dégagée sur la 16, pas beaucoup de voitures, prudentes, à petite allure, attitude adoptée d'ailleurs par Mahmoud, qui pose des panneaux solaires d'habitude, contraint à faire plutôt des commandes sur un petit circuit aujourd'hui.
Oui, ça va, ça roule, mais on roule doucement, parce que quand même ça glisse. On passe pas 30-40 maximum. Ça va, on a de la chance aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de monde sur la route. On peut dire qu'on est au Covid là, il n'y a personne sur la route.
Voilà, il faut dire que souvent les voitures et les camionnettes ne sont pas équipées de pneus adéquats. Certains automobilistes ont d'ailleurs été contraints de se ranger sur la voie d'urgence, faute d'adhérence tout à l'heure, dans les montées à cause d'une neige bouillasse épaisse qui prive d'adhérence. La journée fait sur la 16 et sur d'autres autoroutes du pourtour parisien, et c'est moins drôle, les affaires des dépanneurs à cause d'accrochages. L'un d'eux d'ailleurs nous a bloqué à hauteur de Nerville-la-Forêt après le péage. Kamel, lui, s'apprête à partir quand nous l'avons rencontré en région parisienne.
C'est juste que les gens, ils voient qu'il y a de la neige un peu partout, donc ils veulent absolument sortir et ben, ils finissent dans des fossés, ils rentrent dans des gens. Ça nous fait plus de taf parce qu'il y a vraiment des véhicules prioritaires qui sont embourbés et ça nous retarde sur nos missions. Ceux qui ont pris la route aujourd'hui, donc c'est un bordel monstre, donc autant mieux rester chez soi, au chaud, et nous libérer les voies.
Je vous laisse aller dépanner, super. C'est loin ?
Là, il y a un accident juste là, au quai de Seine. Je vais aller voir ce que c'est. Allez, bonne journée, bon courage !
Et parmi les imprudents qu'on peut classer comme ça, nous avons croisé, été doublé même dangereusement par des poids lourds, pas mal, pourtant interdits à la circulation, stoppés par les gendarmes après le péage de Beauvais-Sud, rangés en une longue file indienne sur la voie de gauche. Nous sommes arrivés aux portes de Paris, donc, alors que l'épisode météo s'achève sur le nord de la France. Et puis allez, tiens, je vous offre le petit rayon de soleil qui est en train de pointer.
on prend. Merci beaucoup Béatrice Duguay, en direct de l'A86 avec les moyens techniques de Jérémy Thuil. Bonjour Arnaud Aimé.
Bonjour.
Vous êtes consultant spécialiste des transports au cabinet SIA. Alors pourquoi ça semble toujours compliqué quand il neige ? Je rappelle les chiffres, 1600 km de bouchons sur la France ce matin, dont 600 en Ile-de-France. Est-ce qu'on n'a pas les bonnes habitudes tout simplement ?
Ou est-ce que tout simplement, est-ce que c'est pas une fatalité qu'avec la neige, les transports soient perturbés aussi ? Je reviens déjà sur le chiffre que vous avez annoncé, les 1600 km de bouchons. La manière de mesurer les bouchons, c'est des capteurs sur la voie qui mesurent la vitesse des véhicules. Et quand on voit que le véhicule avance très lentement, on dit qu'il y a un bouchon. Concrètement, il y a des ralentissements et ces ralentissements, ils sont occasionnés soit par une congestion d'infrastructure, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des bouchons, soit parce que les automobilistes, et c'est plutôt une bonne nouvelle, ils sont prudents et donc ils roulent au ralenti et largement au ralenti quand les conditions sont mauvaises. Donc ces 1600
km, c'est quand même une mauvaise nouvelle, c'est ça que vous voulez dire?
Oui. Ben, disons que ça mélange des cas où la route elle est congestionnée, elle est bouchée effectivement, et d'autres cas, mais on ne sait pas détecter dans quelle proportion, où c'est assez naturellement que les automobilistes cherchent à rouler plus lentement.
Enfin. Parce qu'on a vu en début de semaine, Arnaud Aimé, tout de même de nombreux accidents et accidents mortels, 6 personnes tuées dans des accidents de la route liés aux intempéries, et on s'interroge toujours, effectivement, est-ce qu'il s'agit de la fatalité, pour reprendre votre terme, ou est-ce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas faire, qu'on devrait apprendre à mieux faire ?
Alors déjà, de manière générale, la sécurité routière et le nombre de morts sur la route ne sont pas une fatalité, sauf qu'ils restent trop fréquents en France, et pas seulement ces derniers jours. Je rappelle que chaque année, sur les routes françaises, il y a à peu près 3000 morts. Bon, là, on a trop peu de recul pour savoir s'il y aura eu plus de morts ces derniers jours que tous les autres jours de l'année, mais il y a hélas beaucoup et trop de morts chaque année sur les routes. Il y a quand même des choses pour limiter la casse, entre guillemets, et c'est bien ça la priorité des pouvoirs publics. C'est la priorité des pouvoirs publics, c'est pas, alors c'est pas empêcher la neige de tomber, ni éviter les perturbations qui sont fatales pour le transport public. Les priorités des pouvoirs publics, de l'État, des départements, des collectivités, c'est éviter les accidents. Bon, certes, il y en a effectivement eu ces derniers jours, mais voilà, limiter le plus possible. Éviter les autres situations dangereuses. Et je pense notamment, on a beaucoup reparlé ces derniers jours, des naufragés de la route, qu'il n'y a pas eu. Ou presque pas eu ces derniers jours, contrairement à d'autres épisodes de neige dans les précédentes années.
Oui, Philippe Tabarot, le ministre des Transports, qui était notre invité tout à l'heure, disait que c'était même un objectif qu'il n'y en ait pas ce soir, par exemple, cette nuit, que personne ne dorme dans sa voiture.
Oui. En 2018, de mémoire, il y a eu des chutes de neige assez importantes en Ile-de-France. Il y avait eu 2000 véhicules immobilisés, bloqués pendant la nuit. Ça pose une question de sécurité pour les gens qui sont à bord, parce que les automobilistes, ils n'ont pas toujours été prévoyants. Ils ne sont pas forcément venus dans leur voiture avec une couverture, avec à boire, avec à manger et avec un téléphone portable suffisamment rechargé pour appeler les secours en cas de besoin. Donc, ces naufragés de la route sont vraiment des situations potentiellement dangereuses. Donc, une priorité des pouvoirs publics, c'est d'éviter ça, c'est d'éviter les accidents. Et puis, dernière chose, c'est de maintenir les services essentiels, les ambulances, les pompiers, la santé, etc. Donc, faire en sorte que les gens qui doivent vraiment bouger, pour des raisons essentielles pour la France, eh bien, puissent continuer à bouger. Et donc, là-dessus, le bilan, pour l'instant, est nettement positif.
On va peut-être continuer à relativiser d'ailleurs avec notre auditrice. Bonjour Karine.
Bonjour.
Vous nous appelez de l'Eure, c'est bien ça ? Est-ce que vous êtes sous la neige d'abord ?
Oui, ça s'est arrêté. Il y a du soleil, c'est superbe.
C'est superbe.
Donc, ça va s'arrêter dans 2 heures sur Paris, vous allez avoir un plein soleil. On a 2 heures de décalage.
Qu'est-ce que vous vouliez dire aujourd'hui Karine ? Qu'on voit trop le mauvais côté des choses ?
Oui, les gens n'arrêtent pas de râler. Vous écoutez la radio, vous allumez la télé, tout le monde râle. Vous téléphonez, tout le monde râle. Il neige, il neige, il neige. Mais c'est magique, simplement. Les gens ont, je pense, oublié leur âme d'enfant, bien profondément au fond de leur corps. Ils n'arrivent pas à se réjouir, à admirer, ils n'anticipent pas. Nous, on avait tout prévu. Il suffit de regarder la météo, d'être à l'écoute de la nature, et voilà.
et d'écouter la radio pour savoir ce qui se passe aussi, c'est important.
Oui.
Merci Karine pour votre témoignage. Et on vous souhaite de profiter de cette belle journée ensoleillée dans l'Eure. Jean-Marc nous appelle de Savoie. Bonjour Jean-Marc et bienvenue.
Oui, bonjour, bonjour à tous. Bonjour.
Alors comment ça se passe chez vous?
Eh bien écoutez, ça se passe qu'il fait grand beau, donc depuis à peu près 6 semaines. Donc c'est-à-dire qu'il y a 6 semaines en arrière, il a eu neigé. Voilà, et que la neige qui tombe sur la France du Nord-Ouest, bah ici, beaucoup commencent à s'inquiéter qu'elle ne tombe avant les vacances de février. Voilà. Mmh. Notamment pour la moyenne montagne, hein, pardon, hein. Faisons le distinguo. Voilà, parce que il y en a eu, mais il n'en reste guère. Voilà, en dessous de 2000 mètres. Voilà. Et encore, ça se tient parce qu'il fait froid. Donc, elles ne font pas trop, mais voilà.
Donc, vous voyez les difficultés dans d'autres départements, vous regardez ça un peu avec le sourire, vous dites, nous, on sait faire.
Ben, c'est-à-dire que, comme je disais quand j'ai appelé, je disais, chez nous, il n'y a pas de bouchons. Mmh. Et quand bien même il neige, bon, il y a peu de bouchons. Voilà, parce que, ben, effectivement, on est obligé déjà d'avoir des pneus neige avant l'hiver, là, sur les massifs montagnards. Et puis qu'après, ben, on a l'habitude aussi de rouler. Voilà, mmh. Après, c'est, encore une fois, c'est l'habitude qui fait qu'on est bon rouleur. Sur, peu importe, dans la boue ou dans, bon. Hein, si on parlait de rallye. Mais,
soyez
mais
voilà. Prudents, tout de même, sur les routes, y compris en montagne.
Voilà, et puis merci, à un moment, voilà, je rejoins un peu la précédente auditrice en disant qu'à un moment, il faut relativiser. Bah, s'il neigeait 1 mètre de neige, personne ne pourrait trop aller à son boulot. Et ce serait le fait des éléments. Voilà, et voilà quoi. Donc,
merci Jean-Marc pour votre témoignage. Bonne journée à vous sous la neige. Arnaud Aimé, un mot justement peut-être sur cette culture de la neige, des intempéries, peut-être de manière générale, qui n'est pas tout à fait la même selon l'endroit où on se trouve.
Oui, c'est pas la même selon l'endroit où on se trouve. À la fois la culture et aussi les moyens qui sont alloués, parce que bon, on relativise, et je pense qu'on a raison de relativiser, mais bon, il faut pas non plus rester inactif face à ces épisodes-là. Il faut quand même que les pouvoirs publics prévoient des quantités de déneigeuses, de saleuses, etc. Il faut juste les dimensionner, prévoir le nombre qui soit adapté au regard du nombre de jours où ce type d'épisode apparaît statistiquement. Ça sert à rien de surdimensionner ce parc-là, sinon ce serait pas forcément une bonne utilisation des deniers publics. Mmh. Et puis ce que doivent faire aussi les pouvoirs publics pour limiter ce que je disais tout à l'heure, les accidents, les naufragés de la route, etc. C'est la qualité des prévisions météo, les restrictions de circulation, et puis aussi les conseils aux usagers. C'est là où je rejoins votre point de la culture. Les usagers de la route, il faut leur expliquer, les dissuader parfois, et puis aussi les conseiller sur s'ils doivent quand même prendre la route, comment ils doivent s'équiper, comment ils doivent conduire aussi, parce que c'est pas la même chose de conduire sur une route sèche et conduire sur de la neige.
On va voir justement, du point de vue des pouvoirs publics, comment on se prépare à ce type d'épisode. Bonjour Maurice Barat.
Bonjour madame.
Merci d'être en direct avec nous, également sur France Inter, vous êtes le préfet de la Haute-Vienne. La neige est arrivée dans votre département, ça y est?
Elle est arrivée vers 10h30, c'est-à-dire compte tenu des prévisions météo qui nous attendaient à entre 10h et 11h, c'est exactement ce qui s'est passé, avec une neige qui est tombée régulièrement jusqu'à la mi-journée, qui s'afflocole encore, et on devrait avoir un épisode neigeux qui devrait aller jusqu'à 16h. Donc, sachant que en revanche, les températures étaient négatives déjà depuis plusieurs jours, et on sort d'une période de vigilance grand froid précédemment, et donc ce qui fait qu'elle tombe sur un sol qui est gelé la plupart du temps, ou en tout cas négatif. Donc il faut faire attention, donc les mesures qui ont été prises.
Est-ce qu'il y a déjà des perturbations?
Alors, il n'y a pas de perturbation parce que justement l'arrêté est fait pour ça, pour éviter des risques d'embouteillage liés notamment à des accidents. Nous dénombrons à la mi-journée uniquement 4 accidents matériels légers liés donc à des phénomènes de glissade, dont un avec effectivement donc des véhicules, mais on n'a pas, vous voyez, d'accidents graves. Alors il faut rester modeste, mais véritablement c'est pour cela que un arrêté hier soir zonal pour la zone du sud-ouest, c'est-à-dire la région Nouvelle-Aquitaine pour faire simple, et donc que j'ai décliné départementalement, a été pris non pas que sur les autoroutes et routes nationales, mais également sur les routes départementales, pour tout le réseau, pour qu'il y ait une cohérence dans la circulation.
Il y a notamment, monsieur le préfet, interdiction de circulation des poids lourds. On entendait tout à l'heure dans l'Oise qu'elle n'était pas très respectée, pas toujours respectée, en tout cas cette interdiction. Est-ce que ça va être le cas en Haute-Vienne?
Non seulement ça va être, mais c'est déjà le cas, donc c'est applicable depuis 5 heures ce matin. Il y a des aires qui ont été prévues, aussi bien sur les routes nationales que sur l'autoroute. On dénombre 455 poids lourds qui ont été progressivement stockés, parce que bien évidemment, ils étaient souvent sur un linéaire long, voire international, et ils sont en toute sécurité, et on s'enquiert auprès d'eux, d'ailleurs, que les choses se passent bien. Donc on n'a pas de sujet, vous voyez, de ce type-là, heureusement, à constater de manière importante, et c'est pour ça aussi que les transports scolaires par sécurité pour les enfants ont été annulés aujourd'hui, et sachant qu'ici ou là il y a des transports communs de proximité qui parfois ne fonctionnent pas non plus.
Merci beaucoup d'avoir fait le point avec nous, Maurice Barat, vous êtes le préfet de la Haute-Vienne. Arnaud Aimé, je voulais vous soumettre une question d'un auditeur de France Inter Patrie qui nous interroge comment ça se fait qu'on n'ait pas l'obligation d'avoir tous un équipement adapté en cas de neige de manière individuelle.
On pourrait faire le lien avec le pouvoir d'achat. C'est-à-dire que sur l'équipement individuel des gens, comme sur l'équipement collectif des communes, départements de l'État, il y a le sujet du risque. Quel risque on prend à ne pas s'équiper et quel coût on prend en s'équipant. Certains équipements de sécurité, je pense en particulier aux pneus neige, ils sont obligatoires dans des départements de montagne, un peu moins de 50 départements, je crois. Et dans ces départements-là, à partir du 15 novembre jusqu'à fin mars, il faut circuler avec des pneus neige. On pourrait se dire qu'on généralise ça pour l'ensemble des départements. Le problème, c'est que des pneus neige, ça coûte de l'argent en plus. Si on rend obligatoire des couvertures, de l'alimentation, de la boisson, un téléphone rechargé, ça peut coûter de l'argent. Et puis surtout, comment est-ce qu'on fait pour contrôler ces choses qui sont obligatoires? Donc l'idée, c'est quand même d'être davantage sur la prescription, sur le conseil, sur le rappel, plutôt que sur l'obligation, parce que quand on oblige, il faut être capable, il faut avoir les moyens de contrôler cette obligation.
Merci beaucoup pour votre point de vue et tous vos conseils. Arnaud Aimé, vous êtes consultant spécialiste des transports au cabinet SIA, 21 départements, donc toujours en vigilance orange. On est prudent et puis on profite quand même de la beauté des paysages. On y reviendra bien sûr sur cet épisode neigeux tout au long de la journée sur France Inter. Mais tout de suite, le feuilleton nous conduit dans un village à la vie politique un peu particulière à 2 mois des élections municipales, direction Blussan dans le Doubs. Moins de 200 habitants, son maire s'appelle Marc-André Daudivert. Il a succédé en 2020 à son père et c'est comme ça depuis 1818. Il nous emmène aujourd'hui faire la visite guidée de son village.
À côté de l'église, donc qui est dans sa version actuelle, date du XVIIIe siècle. Voilà, donc dessus on peut voir les armoiries de la seigneurie de Neuchâtel, qui sont gravées. En bas, malheureusement, donc un repère de la crue du 24 juin 2016, suite à un gros orage où la commune a été dévastée par la montée des eaux. Le ruisseau des Combes, effectivement, qui a vraiment débordé d'une façon très intense.
Vous connaissez ?
C'est le chien de mes parents. Des activités économiques, c'est essentiellement donc une entreprise de travaux publics, donc l'entreprise Daudivert. Et après, donc, on a l'autoroute qui passe sur la commune, donc ça fait une petite rentrée d'argent aussi pour la commune. Et sinon, on a pas mal de forêts, on a 130 hectares de forêts qui nous rapportent un petit peu d'argent tous les ans. Malheureusement, plus de commerce. Donc le dernier en date a fermé il y a à peu près 3 ans. Donc c'était un vendeur de pizza, de bière, de produits locaux.
C'est Marco. Oui, c'est moi.
On te dérange un petit coup.
Ça va?
Oui, ça va.
Bonjour madame.
Bonjour monsieur.
Moi je suis journaliste à France Inter.
Oh purée. Oh purée.
Et je suis monsieur le maire, parce que je veux raconter l'histoire de sa famille.
Moi, je n'en pense que du bien, puis il le sait. La famille Daudivert, moi, pour moi, ici, c'est super.
Vous avez été conseillère municipale, vous aussi?
Ouais, 2 mandats.
Jusqu'en 2020.
Oui, c'est ça, 2020.
Donc avec le papa?
Avec le papa, voilà, c'est ça. Donc rentrez quand même, hein, je ne vais pas vous laisser dehors.
Bonjour. Comment appelle-t-on les habitants, ici, à Blussan?
Donc ce sont les Blussanais. Donc ils ont un surnom, les Crotus, qui date, je pense, du 15e au 16e siècle. À l'époque, souvent les habitants dans les villages avaient des surnoms un petit peu, on va dire des sobriquets.
Bon, pas très sympathique, ouais.
Pas forcément. C'était un lavoir qui était, à l'origine, il était couvert. Et c'est là que donc les dames, essentiellement les dames, malheureusement, venaient faire donc laver leur linge. Et il a été réhabilité à peu près un siècle. Donc on a enlevé la couverture. Donc les forêts communales sur le fond et sur la gauche, donc ce sont les forêts communales de Blussangeau. Donc historiquement, les communes étaient liées, ça ne faisait qu'une commune. Et on a gardé cette spécificité d'avoir des forêts de Blussangeau sur le territoire de la commune de Blussangeau. On va dire la problématique dans nos petits villages, c'est qu'on a beaucoup de maisons avec des personnes seules, hein, souvent parce que donc le conjoint est décédé ou choses comme ça. Malheureusement, on peut s'interroger sur l'évolution de la population dans les années à venir. Donc c'est important aussi par rapport aux dotations de l'État, hein, puisque c'est souvent aussi le nombre d'habitants. Et c'est vrai que les perspectives démographiques ne sont pas très engageantes. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de leviers. On espère toujours que les maisons qui sont à vendre seront reprises par des jeunes avec des enfants. Ça amènera donc des enfants dans les écoles et puis de la vie dans le village surtout.
Et suite demain de ce feuilleton signé Jérôme Val.
France Inter. Le 13-14.
13h50, c'est la France avec le regard d'Éric Fotorino comme tous les mercredis. La neige est donc tombée, Éric, et ça change tout.
Et oui, vous avez en effet remarqué, chère Céline, comme la neige a soudain tout changé dans nos vies des dernières 48 heures. Le temps s'est ralenti alors que dès l'aube, les campagnes, mais aussi les villes ont blanchi. Et il y a fort à parier que nos téléphones sont remplis depuis quelques jours de photos de nos rues, de nos jardins et autres lieux familiers pour, sur fond de ciel bleu, montrer combien le voile blanc déposé sur les toits, les arbres, les autos, les vélos et les panneaux de signalisation, entre autres, est source de poésie et d'harmonie. Nous avons donc refait connaissance sans forcément partir à la montagne avec ces petits paradis blancs qui font jaillir des souvenirs d'enfance, des images enfouies dans les dormances d'antan quand le général hiver faisait trembler dans les chaumières et que le froid traversait l'épaisseur de nos gants si on en portait, lorsque la neige fraîche déclenchait des batailles plus pacifiques que celles annoncées par Trump au Groenland. Je parle des batailles de boules de neige et autres constructions de bonshommes du même nom avec leurs yeux en marron et une carotte en guise de nez.
Alors comment expliquer, Eric, cette sensation d'enchantement ?
Alors, on ressent d'abord un apaisement, une sérénité passagère devant cette couche immaculée qui semble tout purifier, tout rendre beau, même les couvercles des poubelles. Cette uniformité s'accompagne d'un silence ouaté où les bruits sont feutrés, les voitures vont au pas, les piétons font parfois des faux pas, les bus s'arrêtent de rouler et ce ralentissement est une sorte de cadeau que nous fait le temps qu'il fait pour nous donner le temps qu'il faut pour vivre un peu plus intensément. Il y a aussi le crissement de nos pas dans la neige, ce bruit bien reconnaissable entre la biscotte qui craque et le crissement d'une étoile de cristal, à chacun son imaginaire. Et je le disais, nous gardons tous une âme d'enfant qui associe la neige aux jeux les plus inoffensifs et qui introduisent une turbulence dans la monotonie ou la grisaille du quotidien. Une héroïne éternelle des petits s'appelait hier Blanche-Neige, supplantée désormais par la Reine des Neiges, loin de l'abominable homme des neiges, venu d'une légende tibétaine et que réhabilita Hergé à travers son émouvant Yéti dans Tintin au Tibet.
Et que nous dit le blanc de la neige ?
Il faut bien sûr écouter le passionnant Michel Pastoureau qui jongle si bien avec le sens des couleurs à travers l'histoire et qui a consacré un livre entier au blanc qu'il tient à rebours des idées reçues pour une vraie couleur à l'instar du rouge ou du bleu. Que voyons-nous quand on n'y voit que du blanc ? Eh bien, en vrac, la propreté, la virginité, la blanche colombe de la paix, le lys royal, le linceul autant que la lumière. Le blanc évoque aussi la sagesse, la beauté et aussi l'innocence. Ne dit-on pas être blanc comme neige ? Mais attention, Simenon l'avait écrit dans son roman « La neige était sale », la blancheur ne dure jamais longtemps. Et Adamo, petit clin d'œil à l'ami Frédéric Pommier, Adamo l'a chanté en 1963, « Tombe la neige et mon cœur s'habille ». De noir, parce qu'elle n'est pas venue.
Et bien voilà, profitons-en alors, puisque ça ne dure pas. Qu'y a-t-il dans le 1 hebdo cette semaine ?
Une question profonde. Pourquoi diable faire le bien ? Céline, vous avez une heure pour le lire. Avec le grand anthropologue Philippe Descola, qui se demande si le bien est une notion élastique, et la philosophe Laurence de Villers, qui veut savoir si la gentillesse exige de nous du courage.
Merci Éric Fotorino de C'est la France. Ah, c'est une chanson et c'est un saxophoniste de jazz que vous recevez aujourd'hui, Frédéric Pommier. Il s'appelle Benjamin Petit.
Benjamin
Benjamin Petit, qui est par ailleurs pilote de ligne long courrier sur Air France. Son nouvel album Requiem for Nomad King est sorti il y a quelques mois, album qu'il donnera à entendre samedi sur la scène du Duc des Lombards à Paris. Et c'est une chanson de Sting qu'il a souhaité que l'on écoute. Englishman in New York, tube qu'il a découvert au début de l'adolescence.
J'ai écouté toutes sortes d'artistes de chansons internationales de l'époque. Et il y avait ce chanteur Sting, donc à peine sorti de son groupe The Police, et qui faisait ses albums solo, The Mercury Falling, Nothing Like the Sun. Ces albums sortaient à cette époque-là, donc on parle des années 80 à peu près. Et il a eu l'intelligence de s'entourer de musiciens de jazz, parmi les plus connus de cette époque-là, encore aujourd'hui, parce que ce sont des légendes. Il y avait donc le saxophoniste Branford Marsalis, qui a été très important dans mon développement d'artiste, mais également Kenny Kirkland, magnifique pianiste de jazz, Daryl Jones, Omar Hakim.
Et vous, à ce moment-là, vous faisiez déjà du jazz ?
Non. À vrai dire, je commençais la musique de manière plutôt intuitive. J'avais un piano à la maison, un peu désaccordé, mais j'étais très souvent derrière ce piano à refaire des mélodies de dessins animés que j'aimais bien et des chansons, et notamment des chansons de Sting. Puis, à un moment donné, mon père m'a dit « Mais tu veux pas faire vraiment un instrument ?» Et j'ai hésité un peu entre la batterie et le saxophone, mais ça a été le saxophone qui a remporté, et notamment par l'influence des saxophonistes qu'il y avait dans la musique pop en général. Ça m'a déclenché l'envie, et quelques années plus tard, l'envie de faire du soprano en particulier, car Branford Marsalis fait beaucoup de soprano dans la musique de Sting, notamment dans ce morceau Englishman in New York. C'est ce qui m'a déclenché cette envie vers ce saxophone un peu particulier et qui n'est pas le plus connu. Il y a pas mal de gens qui croient que c'est une clarinette d'ailleurs. On me le dit encore aujourd'hui. Il dit « Ah, c'est bien le saxophone, mais c'est bien aussi, tu joues bien la clarinette aussi. » Non, c'est un saxophone. Coffee, I take tea, my dear. I like my toast done on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue. A walking cane here at my side.
Qu'est sorti Frédéric, cette chanson de Sting.
Une chanson qui a donc énormément compté pour Benjamin Petit.
Il y a ce rôle-là, presque d'un duo, et il y a ce son d'un saxophone soprano doux, chaleureux, sublime, dans cet album Nothing Like the Sun, et en particulier dans ce morceau-là, Englishman in New York, où ça m'a vraiment touché profondément au niveau sensibilité. Alors c'est un album qui aujourd'hui... un petit peu vieilli parce que la production, les réverbes, etc., tout ça n'est plus forcément au goût du jour. Mais pour moi, il est mémorable, il est ancré dans mon histoire.
Vous iriez jusqu'à dire que cette chanson, elle a été fondatrice ?
Ah oui, ouais, j'irais jusqu'à dire ça, oui, oui, bien sûr. Ça m'a même construit dans mon approche mélodique d'artiste et saxophoniste improvisateur. Et moi, j'ai aimé le son de Branford Marsalis au soprano. J'ai tout simplement cherché totalement à l'imiter dans un premier temps. Et les gens me le disent, ils me disent « Toi, t'as écouté Branford, c'est obligatoire. » Et ils ont raison, et je prends ça à chaque fois comme un compliment quand on fait cette référence-là. Confront your enemies, avoid them when you can. A gentleman will walk but never run. The manners make of manners, someone say. He's a hero of the day.
Les phrases de saxophone dans cette chanson, ce sont des phrases qu'il vous arrive de jouer ?
Oui. Alors parfois, même un peu volontairement, comme des citations, comme des références. Il y a quelques copains qui sont aussi, comme moi, touchés par cette chanson et qui les reconnaissent. Donc c'est un peu des clins d'œil qu'on peut faire. Toute la partition de soprano de cette chanson, je la rejoue là tout de suite, si vous me demandez. Toutes les phrases de Branford au bon endroit, placées avec le même son, la même inflexion, etc.
Parce que vous avez l'impression d'être un peu habité par cette chanson que vous avez découvert tout jeune.
Ouais, habité par la chanson dans le sens où c'est plutôt la chanson qui va habiter en moi, en fait. Et elle est tellement importante dans mon histoire, je vous cache pas que je l'écoute moins, j'écoute tellement de choses aujourd'hui, et plus actuelles, etc. Et puis mes goûts ont évolué, mais il y a des fondamentaux dans nos goûts qui restent et qui resteront toute notre vie.
« Starting Englishman in New York. C'était donc Frédéric, le choix du saxophoniste de jazz Benjamin Petit.
Benjamin Petit qui sera en concert ce samedi au Duc des Lombards à Paris.
Merci Frédéric Pommier. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Céline Asselot.
Au programme de La Terre au Carré.
Eh bien comme c'est une grande journée de bande dessinée sur France Inter, on va parler bande dessinée et écologie.
Ça tombe bien. À tout de suite.